Il est réel dans ce sens qu'il y a de plus en plus d'acteurs non congolais et non rwandais, parce que ça, ce sont les acteurs qui sont sur le terrain depuis un certain temps, semblent s'engager. On a appris il y a une bonne semaine que à peu près 600 militaires démobilisés du Burundi auraient rejoint les rangs de Laurent Nkunda. À l'insu du gouvernement, je m'empresse de le dire, je ne pense pas que ce soit la volonté ni la politique du gouvernement burundais. Mais il y a de l'autre côté également de plus en plus d'indications que des éléments angolais soient engagés aux côtés de l'armée congolaise. Et donc, ce sont les alliés des guerres précédentes qui s'engagent de nouveau dans le conflit. Cela dit, je ne pense pas que le conflit va connaître l'extension qu'il a connue, en particulier entre 1998 et 2003, lorsqu'on a vécu une véritable guerre africaine avec l'implication d'une dizaine de pays. Je ne pense pas qu'on ira aussi loin que cela, ne fût-ce que parce que Laurent Nkunda ne bénéficie pas de l'appui qu'avaient les rebelles jadis.
Vous avez tout de suite cité le Rwanda, et pourtant son implication directe est rarement évoquée officiellement. Pourquoi ?
Cette fois-ci, contrairement aux guerres précédentes, nous n'avons pas de preuves fiables, je crois, d'une implication directe et massive de l'armée rwandaise au Congo et au Nord Kivu en particulier. Cela dit, le Rwanda appuie bien évidemment politiquement, diplomatiquement, le mouvement de Laurent Nkunda, mais je sais que, et tout le monde sait que, les amis du régime rwandais, et je pense notamment aux Américains et aux Britanniques, font comprendre de façon discrète à Kigali que le régime rwandais et l'armée rwandaise doivent s'abstenir d'une présence ou d'un engagement visible et massif au Congo.
À qui profite cette instabilité ? Dans quelle mesure les grandes puissances comme les États-Unis, la Chine ou la France sont-elles impliquées ?
Cette instabilité profite, je dirais, presque à tout le monde, profite à tous ces entrepreneurs de l'insécurité qui sont en train de piller le pays, qui sont en train d'exploiter les ressources naturelles du Congo et qui, parce que ce sont des acteurs illégitimes, trouvent beaucoup plus facile d'être actifs dans cette activité d'extraction dans un contexte de guerre, d'absence d'État congolais par exemple. Je pense notamment au Rwanda, mais également dans une moindre mesure aujourd'hui à l'Ouganda, mais tout comme des acteurs congolais. En ce qui concerne les grands acteurs internationaux, je crois que tous ceux que vous avez cités, les États-Unis, la France, la Chine, ce sont des acteurs qui, évidemment, sont intéressés par les ressources du Congo, mais qui, je pense, estiment que pour les exploiter, il faut le faire en situation de reconstruction étatique, de paix et de stabilité.
Alors, quelle est la solution ? Renforcer la MONUC alors qu'elle se montre impuissante face aux pillages, aux exactions ?
Oui, en effet, la MONUC n'a pas été des plus performantes depuis qu'elle est là, d'ailleurs. À mon sens, il ne s'agit pas du mandat qui pose problème. Le mandat est suffisamment large, mais mon impression est que les troupes de la MONUC qui sont sur le terrain ne sont pas capables ou ne veulent pas prendre des risques, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Si on laisse à la MONUC telle qu'elle existe à l'est du Congo et à l'armée gouvernementale d'essayer d'établir un minimum de contrôle territorial, bon, nous avons pu constater depuis des années déjà que ces deux entités en sont incapables. Une mission européenne serait une possibilité, mais il semble bien que le gouvernement congolais soit en train également d'essayer de mobiliser d'autres appuis et par exemple une présence massive angolaise, parce que là nous parlons d'une armée qui est performante, ferait évidemment la différence. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faut souhaiter.